Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission d'après-course du bulletin GP dans le cadre du Grand Prix d'Australie 2023 pour parler de ce Grand Prix dont les mots me manquent encore. J'accueille avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou.
Est-ce que tu as passé une bonne nuit de sommeil?
Non, vraiment pas. Mais je pense quand même que ça va être, pour de mauvaises raisons, un Grand Prix qui va rester dans l'esprit de beaucoup, beaucoup de partisans de Formule 1.
Ouais. Et juste avant de justement parler la raison pour laquelle ça a laissé un goût amer, on enregistre, il est présentement 10h31 ce dimanche. Et je tiens à préciser que lorsque la couverture du Grand Prix d'Australie a terminé, il était 4 heures du matin, ouais, heure du Québec, parce que ce Grand Prix a duré 2h30. Ça nous a fait penser à Japon 2022, carrément avec un drapeau rouge long et chaos. Donc, ça a été un Grand Prix de chaos, mais avant, je vais vous donner le résultat. Donc, Max Verstappen a remporté cette course devant Lewis Hamilton, deuxième, premier podium de la saison. Fernando Alonso, troisième podium de la saison. Lance Stroll, son meilleur résultat avec une quatrième place. Sergio Perez termine cinquième. Lando Norris, sixième. Nico Hülkenberg obtient ses premiers points de la saison avec une septième place. Et Oscar Piastri obtient ses premiers points en Formule 1 à la maison avec une huitième place. Zhou Guanyu aussi obtient ses premiers... Zhou Guanyu et Yuki Tsunoda aussi obtiennent leurs premiers points. On a perdu dans cette course Charles Leclerc au départ, Alex Albon au sixième tour, George Russell au 17e tour. Et aussi, on a perdu Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Nick DeVries, Esteban Ocon et Pierre Gasly qui ont abandonné. Mais comme ils ont complété 90%, ils sont officiellement classés. Marc-André, on ne fera pas les évaluations comme on le fait d'habitude. On va aller sur le vif du sujet et on va parler de cette fin de course qui restera dans les annales de la Formule 1. Peut-être pas pour les bonnes raisons. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, je vais en profiter pour une petite anecdote. Je suis sorti avec mes amis et puis je suis revenu un petit peu plus tard dans la soirée, dans la nuit. Donc, j'ai pu avancer quelques moments dans la course. Mais mon ami m'écrit à je sais pas trop quelle heure. Il me dit « Hey, c'est chaotique, j'en reviens pas. » Et j'étais rendu à ce moment-là peut-être au 25e tour. Puis déjà là, j'avais trouvé que c'était chaotique. Fait que je me dis « Écoute, ça peut pas être pire. » Mais la fin de course, comment dire? je sais même pas comment commencer. Il y a eu trop de choses, on dirait. Tout est parti de Carlos Sainz lors de la troisième relance, si je compte bien, au 56e tour. Il accroche Alonso et là, c'est une boule de quille. Ocon, Gasly qui ont un contact un petit peu plus loin. Lance Stroll qui a une crevaison. Perez qui passe dans le gazon. Est-ce que j'en manque? Carlos Sainz, évidemment, qui a eu un contact avec Alonso. Écoute, ça a été vraiment chaotique. Après ça, il y a eu un drapeau rouge et ça a pris beaucoup de temps avant qu'on comprenne exactement ce qui se passe. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je reproche un peu à la Formule 1. Lorsque le drapeau rouge est arrivé, on ne savait pas si la course allait être relancée ou pas. De quelle manière est-ce que il allait avoir un seul tour finalement? C'est exactement ce qu'il y a eu, un seul tour sous la voiture de sécurité avant qu'elle sorte et Max Verstappen a pu accélérer et les autres également sans pouvoir se dépasser mutuellement. Parce qu'il faut comprendre que ce qui compliquait la chose aussi, c'est que ça s'est passé au 57e tour. Donc, il n'y avait plus moyen de faire une course. Mais je crois, écoute, à première vue, je si je comprends bien le règlement, je pense que tout a bien été respecté. Il fallait qu'on termine la course. On ne pouvait pas tout simplement dire « Ah ben, on ramasse pas les débris, on termine la course comme ça, sous un drapeau rouge. » Ça n'aurait pas été possible. Donc, je pense que tout a été respecté. Est-ce que la Formule 1, encore une fois, la FIA, aurait pu expliquer plus rapidement vers quoi on s'en allait? Peut-être. Ce serait peut-être un petit peu plus de communication dans des moments comme ça où je comprends que tout est chaotique. Là. Même pour les commissaires, c'est beaucoup, beaucoup d'informations et de choses à gérer en très peu de temps, surtout dans un Grand Prix comme ça. Je me demande s'il ne pourrait pas avoir encore là un petit peu plus de communication entre les réseaux, les partisans, la FIA, les multimédia. Bon, on parle de tout le monde pour que on puisse comprendre un peu où ça s'en va sans savoir exactement encore qu'est-ce que la décision va être. Tu sais, on parlait de Japon, c'était un peu ça aussi.
Ouais, et aussi il faut aussi expliquer que bon, tout ça est parti de Kevin Magnussen qui a perdu son pneu.
C'est vrai.
Qui a perdu son pneu lors au 54e tour, 55e tour au virage 2, qui a dû se stationner au virage 4, sa voiture sans pneus, qui est d'ailleurs restée en piste sur la ligne de trajectoire, ce qui a amené d'abord la voiture de sécurité et ensuite le deuxième drapeau rouge de cette course après l'accident d'Alex Albon en début d'épreuve. Et bon... Il y a tout ce débat à savoir, est-ce que ce drapeau rouge était nécessaire ou non, parce que ça a donné un mini sprint de 2 tours et qui a résulté en ce carambolage qu'on a vu de nos propres yeux avec cette guerre civile espagnole et française, avec derrière Stroll qui s'est lié au virage 4 et l'accrochage entre Nick DeVries et Logan Sargeant. Mais est-ce que ce drapeau rouge était nécessaire selon toi? Parce que tu dis ça a été respecté aussi. Donc, est-ce que c'était nécessaire d'après toi d'amener ce drapeau rouge?
Exactement. À ce moment-là, c'est curieux, je pense que oui. Parce que tu vois, j'avais la même opinion qu'à Abu Dhabi quand il y a eu l'incident de Latifi. Tu sais, je pense qu'ils ont respecté la lignée où ils s'en vont. Que lorsqu'il va avoir un incident, ils vont vouloir peut-être aller vers le drapeau rouge. Tu sais, la voiture était gênante, le pneu était gênant. La question est, est-ce que l'on veut que ça se termine sous drapeau jaune, voiture de sécurité? Peut-être qu'après ce Grand Prix, ils vont s'asseoir et ils vont regarder les possibilités aussi. Parce que j'avoue qu'un sprint de 2 tours, ça amène des risques. Ça amène peut-être, il y a peut-être quelque chose dans la tête des pilotes qui se disent, écoute, je suis en bonne posture, j'ai rien à perdre. Il faut absolument que j'aille chercher des points importants, surtout dans cette circonstance que tout le monde faisait des points à ce moment-là. Il y avait 10 pilotes. Il y avait beaucoup de pilotes qui pouvaient, espérer faire des points. Donc, il y avait quelque chose à aller chercher pour beaucoup, beaucoup de pilotes. Donc, je comprends pourquoi les pilotes sont allés de cette agressivité-là. Ils ne voulaient rien laisser. Mais effectivement, la question est très bonne. Est-ce que la Formule 1, la FIA va s'asseoir ensemble pour regarder, apprendre de cet événement? Peut-être que si jamais un autre incident survient durant la saison, à ce moment-là dans la saison, peut-être qu'on va y repenser. Parce que je ne pense pas que ça a été plus positif de repartir la course. Vraiment pas, même.
Non, c'était un capharnaüm énorme. C'était en fait, moi à la base, j'étais d'accord avec la décision d'y aller avec le drapeau rouge, mais au final, si ça a servi à ce que ça soit comme le bordel qu'on a eu, des pilotes avec des pneus froids pour un ou deux tours, mm-hmm. et le soleil qui commençait à être au plus bas, étant donné que ça, c'était à 17 heures, autant cette course aurait dû se terminer derrière la voiture de sécurité. Et je pense personnellement, plus je regarde l'accident de Magnussen, je pense que cette course aurait dû se terminer derrière la voiture de sécurité, même si ça risque de déplaire à des gens pour l'aspect spectacle. Il y a aussi cette question de sécurité. Est-ce que c'était jugé nécessaire de... Qu'est-ce que ça aurait donné de toute façon si on terminait la course derrière la voiture de sécurité? Parce que c'est ramasser le pneu qui traîne, mm-hmm. et balayer les débris.
Ouais.
Moi, je pense, et pour continuer dans la même lignée, le drapeau rouge de l'accident d'Albon, ça, c'était nécessaire parce que c'était beaucoup de sable, des débris à un endroit quand même assez un peu restreint s'il n'y a pas de zone de dégagement, entre autres sur la droite et tout ça. Oui, il y a un bac à gravier, mais tu dois aussi le pousser. Ça, c'était nécessaire. Le deuxième...
Bientôt dans la course aussi. Aussi également. Là.
Ouais, ça c'était en pleine course. Ça c'était en plein début de course. Ça, je peux comprendre. Mais le deuxième, au final, il était pas nécessaire du tout. Et puis, ça gueule énormément sur les réseaux sociaux, mm-hmm. Pour dire « Ah, mais pourquoi ils ont fait ça? » Ça devient plus du sport, ça devient du show. Et moi, je pense que je vais être d'accord avec eux parce que, au final, ça n'a servi à personne, autant pour le sport que pour le spectacle en tant que tel. Parce que, l'ironie, il y en a qui ont dit que c'était exactement similaire à ce qu'on a vu au circuit des Amériques lors de la course de NASCAR Cup Series où tout le monde essayait de gagner la course au premier virage. Donc, ça ressemblait carrément à ça. Et je sais qu'avec deux tours à faire, c'était quand même fou. Mais au final, moi, je pense que la FIA aurait pu jouer ça de manière sécuritaire en terminant la course sur la voiture de sécurité. Ou, au pire, si jamais tout était possiblement prêt pour au moins deux tours, ben, fine. Au lieu de nous faire languir pendant une heure et pour avoir le résultat qu'on a eu.
Exact. Je pense que on dit souvent ça, mais la Formule 1 va devoir, et la FIA, n'importe qui, va devoir quand même apprendre d'une situation comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va être ressorti? J'entends que dans les prochaines semaines, on ait des retours sur qu'est-ce qui s'est passé, une revue pour qu'on puisse savoir dans quelle direction on va s'en aller. Parce que c'est dommage. C'est pas dommage, mais il va y avoir aussi une question de jurisprudence. T'sais, cette situation-là va devoir soit être changée ou gardée intacte. Parce que si ça survient encore, il faut qu'on soit les partisans, les écuries, les pilotes et la FIA. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde puis qu'on sache qu'est-ce qui va se passer si jamais une telle situation peut survenir. Parce que c'est très possible que dans trois courses, il y a un drapeau rouge forcé à la 58e minute, au 58e tour. Et on va devoir savoir si on termine sous drapeau jaune ou sous drapeau rouge. C'est quelque chose d'extrêmement important. Puis tu vois, on savait pas trop dans quelle direction il allait aller.
Et c'est exactement ce que je disais dans le deuxième, dans l'épisode d'après-course numéro 2, lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, avec toute l'histoire des règlements et tout. Ben, justement, ça va être encore un autre cas de révision de règlement parce que on n'arrive pas à soit imposer les règles concrètement. Oui, la FIA l'a fait selon de bonnes manières, mais ça va encore mener à réviser les règles pour les prochaines, là ou les prochaines courses, d'autant plus qu'il y a un mois de sans Formule 1. Là, ça va être quoi? On va. C'est pour ça que je dis, il faut qu'il soit clair. Le règlement soit le plus clair possible parce que je comprends la Formule 1 est un sport compliqué avec les règlements sportifs techniques, mais ils sont capables. Je sais que la FIA est capable de faire ça de manière beaucoup plus simple, mais au contraire, ils se compliquent la tâche.
Exact. On dirait que c'est jamais simple. Hein? Autant chez les écuries, chez les pilotes, que la FIA, que la Formule 1, Liberty Media. Je pense que même ça, c'est compliquer la tâche puis trouver des nouvelles manières de nous surprendre course après course. Puis celle-là, je pense qu'elle va rester vraiment dans nos têtes. Puis j'ai hâte de voir comment Drive to... Je sais pas s'il était sur place. C'est quelque chose que je voulais essayer de trouver après le podcast, mais j'ai hâte de voir si Netflix est là, comment ce Grand Prix va être couvert, là, en fait. Là.
Ouais, écoute, et puis je vois, il y a plusieurs experts qui disent « Ah, ben c'était carrément l'équivalent de rouler dans Mario Kart dans le château de Takeshi. » Donc et puis, ouais. T'sais, je veux pas que le drapeau rouge devienne quelque chose d'artificiel non plus, juste parce que c'est pour le show et tout ça. Mm-hmm. Là. Il faut que... T'sais, je comprends, il y avait une raison de sécurité, évidemment, parce que tu veux pas rouler... en voiture sous la voiture de sécurité virtuelle. D'autant plus que, justement, en Formule 2, il y a eu Enzo Fittipaldi, bien qu'il soit sorti de piste, qui a eu un accident proche de la voiture de Roy Nissany, justement au même endroit où Verstappen, Magnussen a perdu son pneu. Donc, des trucs comme ça, ça peut arriver, mais tu dois prendre... Mais il faut être proactif.
Oui, je pense qu'il faut que les balises soient claires aussi. Ou il faut qu'ils soient clarifiés dans les prochaines semaines. Parce que tu vois, moi, je croyais que la Formule 1 avait pas changé techniquement son règlement sur le fait qu'on termine sur drapeau jaune. Puis finalement, ben on remarque que ça a été fait, ou du moins, je pense qu'il y a quelque chose à clarifier. Puis après ça, ben là, on va pas être soit surpris ou du moins, ce qui va arriver, c'est qu'on va savoir que, OK, on s'en va sous drapeau rouge, on fait une petite course sprint, puis c'est tout. Un peu comme à Abu Dhabi, tu sais.
Ouais.
Finalement, c'est ça qui est arrivé.
Ouais. Mais là, c'est ça, c'est que ça va être un genre de... Tout ceci, en fait, nous mène vers un genre de... est-ce que je dirais un whataboutisme ou un genre de scénario différent. Par exemple, tu parles d'Abu Dhabi, cette course aurait dû être interrompue. Mais c'est ça, je veux pas que le drapeau rouge devienne un outil artificiel. Il faut que la raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'il y a un sérieux potentiel de sécurité qui pourrait être en frein. Pas pour que ça mène à encore plus de chaos. Et justement, il y a des pilotes qui ont exprimer leur désaccord, à commencer par le vainqueur Max Verstappen, qui a dit que oui, là, il est content d'avoir gagné la course, même si sa domination a été menacée. Il a dit que il n'a pas compris pourquoi on avait besoin du drapeau rouge. Je pense qu'il parle du deuxième. Que la voiture de sécurité, terminée derrière la voiture de sécurité, aurait été beaucoup mieux. Et il dit que les commissaires ont créé les problèmes. Donc, c'est assez... Ben, c'est du Max Verstappen. Straight to the point. Donc, il dit, c'est la faute au commissaire. Ensuite, il y a Carlos Sainz. Et d'ailleurs, ça va me faire penser, on va revenir sur sa pénalité qui a pris sur le tas avant la relance que... Il a été pénalisé de 5 secondes pour avoir causé la collision avec Fernando Alonso à la relance, qui fait en sorte qu'il a chuté de la 4e à la 12e place. Donc, ce qui veut dire que Ferrari ne marque aucun point avec l'abandon de Charles Leclerc. Et il dit que c'est la pénalité la plus injuste de sa vie. Qu'est-ce que tu penses de la pénalité de Sainz? Moi, je pense que c'était la bonne décision.
Moi aussi, je pense que c'est totalement mérité. Au contraire de ses dires, il n'a jamais freiné. Il est vraiment venu en contact avec Alonso. C'était clair, net et précise. Puis, tu sais, je lisais certains commentaires qui disaient « Ah ouais, mais tu sais, Sainz a créé un chaos. C'est pas pour ça qu'il y a une pénalité. C'est vraiment pour le moment. » Où il est arrivé dans le virage et n'a tout simplement pas pris en compte qu'Alonso était proche. Que ce soit voulu ou non, c'est pas un incident de course. T'sais, c'est vraiment, je pense qu'il y avait quelque chose, il y avait matière à pénalité. Puis tu vois, la Formule 1 en a décidé ainsi. Donc, c'est malheureux pour lui. Il y avait un bon week-end quand même.
Ah oui.
Charles Leclerc, encore une fois, qui tombe dès le premier tour. Ça fait mal pour Ferrari, pas juste sur le plan des pilotes, mais collectivement aussi. Donc, c'est certain que la frustration doit être très grande en ce moment. Mais écoute, d'après moi, c'était une pénalité et la bonne décision a été prise, même si c'est injuste dans un sens parce que tu prends une pénalité lors du dernier tour, tu peux pas réagir. Mais écoute, ça fait partie d'une décision d'avoir foncé. Puis je pense que c'était totalement mérité.
Ouais, exact. Donc, et même Carlos Sainz a sorti sa belle imitation de José Mourinho en disant ben, « If I speak, I'm in big trouble », en essayant d'éviter de dire n'importe quoi parce qu'il allait se prendre une grosse amende pour avoir, disons, critiqué les commissaires, ben en fait, la direction de course pour la pénalité par les Gunther Steiner qui en a payé les frais après le Grand Prix de Russie 2018. Ouais. Donc, ça au moins, ça nous a bien fait d'éviter de trop parler. Sinon, Fernando Alonso a dit qu'il a été très surpris des drapeaux rouges. Donc, oui, il dit que la FIA a plus d'informations que eux. Donc, si la FIA a... s'il y a un drapeau rouge et il y a une raison, et il dit, ben, pourquoi? Quelle était la raison de la deuxième? Et évidemment, Alonso a dit, mais pourquoi? À la radio, à chaud, il a dit, mais pourquoi un drapeau rouge? Pourquoi? Mm-hmm. Donc, évidemment, je pense que lorsqu'il a parlé à la presse, il s'est calmé. Mais il dit que la FIA sont les seuls à vraiment avoir plus d'informations qu'eux. Donc, ouais.
Ça, je suis d'accord, mais il va falloir quand même que l'information soit communiquée.
Oui.
Il y a vraiment quelque chose à faire en ce moment parce que, tu vois, les pilotes, les écuries ne comprennent rien en ce moment. Ça, ben, c'est pas normal là, qu'il y ait dans un sport. Tu termines la compétition, là, je vais le mettre entre guillemets, là, tu termines l'événement, le match, puis personne comprend vraiment pourquoi les décisions ont été prises. Tu vois, vraiment, il y a un retour de conscience à faire, je pense, sur la communication de HO. Que moi, je ne sache pas tout de suite. Bon, ça me dérange pas trop, là, pour vrai. Mais j'aimerais ça que les pilotes, les écuries comprennent quand même la décision alors que la course se termine. Tu sais, il y a vraiment un travail de communication à faire avec toutes les parties.
Et celui qui a été le plus vocal parmi ce qui s'est passé, c'est Lando Norris. Et monsieur qui n'était pas vraiment content, ben, il dit que il accuse la FIA de vouloir faire, de rendre le show le plus excitant. Il n'aime pas ces genres de relances après un drapeau rouge. Peut-être dans le premier quart de la course, il peut comprendre. Dans la deuxième, surtout avec quatre courses à faire, c'est comme si ça venait ruiner l'entièreté de la course. Donc, les 56 premiers tours qui ont été disputés avec le drapeau rouge, ça vient pratiquement effacer tout ce qui a été fait, selon lui. Et il dit que c'est pas juste pour ceux qui ont fait du bon travail et que tout est ruiné à la fin. Il dit aussi que le deuxième drapeau rouge n'était pas nécessaire. Il dit que bon, il n'a pas tout vu, évidemment, mais il dit que ça aurait dû se terminer derrière la voiture des sécurités. Et quand on parle de ruine, de tout ruiner, ben, il faut en parler de Alpine qui allait avoir ses deux voitures dans les points. Surtout avec Pierre Gasly qui, je pense, au moment du drapeau rouge, se retrouvait, du deuxième drapeau rouge, se retrouvait cinquième.
Ouais. Et là, exact.
Boum, zéro pointé parce qu'il y a eu accrochage entre les deux Alpine Rose. Donc, et surtout que les deux ont été convoqués par la direction de course, par les commissaires pour s'expliquer. Et avant d'aller se coucher, on pensait, est-ce que Pierre Gasly va être jugé fautif ou est-ce que ce sera Ocon? Finalement, incident de course. On ferme les livres. Merci, bonsoir. Pierre Gasly ne sera pas suspendu. Donc, Dieu merci pour lui. Alors, ouais. Ça, pour Alpine, ça a été un énorme chaos, en fait.
Oui. Je pense qu'ils vont s'en souvenir longtemps, autant que Haas avec ces deux voitures qu'ils ont abandonnées grâce à leur propre faute en Australie 2018. Est-ce que j'ai raison? 2018 ou 2019? En tout cas, on pourrait y revenir. Je vais aller chercher l'info avant de finir le podcast. Mais oui, chaotique pour eux, vraiment. Quand tu imagines que tu es dans les points, ça va bien. Tout roule, t'es cinquième, tu penses aller chercher une bonne position, puis finalement, le chaos te vient te frapper de plein fouet. C'est extrêmement dommage parce que Gasly connaissait un bon week-end. Gasly était rapide, il s'en allait vers un bon résultat. Ocon, lui, qui avait eu peut-être une fin de semaine plus difficile sans être catastrophique, connaissait aussi finalement un bon résultat, puis c'était collectivement un bon week-end pour l'équipe en général le dimanche dans la course. Donc ça se termine de cette manière-là. Je trouve que c'est plate pour eux, mais en même temps, c'est de la Formule 1, ça arrive. Tu sais jamais vraiment ce qui va se passer. Donc, ça doit être vraiment, en ce moment, dans les bureaux, frustrant de voir que tout le travail qui a été accompli en fin de semaine se rabat à zéro pointé, zéro point. On retourne à la maison, 100 points. Il y a un mois de réflexion en plus avant Bakou aussi. Donc, ouais. ça c'est plus difficile aussi.
Mais c'est une bonne nouvelle pour eux, au moins, de recharger leur batterie. Donc,
oui, ils vont pouvoir... relaxer un peu.
Et dernier point avant de sur ce chaos de fin de course, est-ce que tu penses que on a décidé de faire comme Bakou? Est-ce que on a tellement apprécié la relance de Bakou 2021 qu'on a dit on va refaire ça à nouveau, ou bien tu crois que c'est juste nécessaire de parce que il y a eu la fois où c'est arrivé, en fait la première fois où ça s'est produit, c'était à Bakou 2021, évidemment avec Hamilton qui part tout droit avec son magic button. Mais tu sais, là, c'est la deuxième fois avec deux tours à faire. Je ne sais pas, est-ce qu'on est rendu vraiment dans une situation où ça va devenir la norme ou va falloir réviser ça, encore une fois, dans le règlement avec les belles écritures roses pour dire, pour clarifier comment le processus de départ va être fait, enfin.
Ben, c'est certain que de mon côté, je pense que ça me prendrait un certain temps de réflexion à savoir est-ce que c'est bon pour le sport ou non. Tu sais, tu parlais tantôt du commentaire de Norris, juste ça, je pense que ça aurait pu être un sujet de podcast en général, hebdomadaire, qu'on aurait pu faire parce qu'il dit, tu sais, ça a tout ruiné. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'après un certain nombre de tours, on doit repartir ou non? Tu sais, on avait déjà eu la discussion avec Abu Dhabi, on l'a re-eu avec Bakou. Le règlement, il n'est pas plus clarifié. Ça va prendre des écritures. Ils ont un mois, là. Est-ce qu'ils peuvent nous faire des belles écritures pour qu'on sache à quoi s'attendre? Moi, si tu me dis, OK, dans les 10 derniers tours, peu importe ce qui se passe, on lance un drapeau rouge pour partir en course sprint, ben dis-moi-le, puis on ne sera pas surpris la prochaine fois. Tu vas pouvoir te faire ta propre opinion, puis bon, si t'aimes, ben tu vas être content. Puis si t'es pas du camp où t'as l'impression que ça améliore le sport, ben tu vas être mécontent, mais au moins on va le savoir. En ce moment, c'est que on sait pas sur quel pied il danse. Puis ça se peut très bien que à Bakou, on ait une décision complètement différente parce que il n'y a pas de règlement clair sur ça. Donc, moi, je pensais juste de clarifier le tout. Après ça, bon, chacun a son opinion. Moi, je pense que c'est certain que je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment que le drapeau rouge soit utilisé pour une raison de sécurité majeure. Il faut que le drapeau là, soit vraiment très clair, que ce soit pour ça. En même temps, je suis dans le camp que je me dis que j'haïs totalement les courses qui se finissent sous drapeau jaune. Mais ça, c'est d'une manière très personnelle. En même temps, est-ce qu'il faut ça pour enlever un chaos comme on a eu en Australie? Peut-être que je serais prêt à le faire aussi. Donc, tu vois, il va falloir que tout le monde s'assoie ensemble pour voir qu'est-ce qui est bon pour la Formule 1. Puis que Liberty Media, la FIA, nous mettent des balises claires.
Et aussi, et pour compléter, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose aussi, que les pilotes aient aussi leur part de responsabilité dans tout ça. On n'en parle pas beaucoup, mais les pilotes ont aussi leur part de responsabilité. Donc, je les comprends, il faut qu'ils doivent se battre pour des places, mais il ne faut pas faire non plus... tout ruiner après de belles courses. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. On va passer à la course en tant que telle parce qu'il y a quand même eu un vainqueur et c'est Max Verstappen qui, malgré un départ correct, mais un bon départ de George Russell, a remporté la course. Donc...
Oui. Même, j'irais même à deux départs extrêmement difficiles pour Verstappen. Autant le premier que lorsque la course a été relancée après l'accident de Albon. Ça a été un lent départ aussi. Il a vraiment été challengé. Donc, écoute, ça n'a pas été un sans faute pour Verstappen. Je pense qu'il va prendre amplement les points. Il doit être aussi content que Sergio Perez ait terminé cinquième. C'est un bon résultat collectif. Je pense que je miserais sur ça encore une fois. Une remontée. Tu vois que ça n'a pas été facile pour Perez non plus. On va y revenir, j'imagine. Mais on a vu que la Red Bull a dû travailler pour revenir. Puis je pense que il a amplement profité du DRS sur son dépassement à Hamilton. Il a vraiment là, été comme un... Il a été spectateur de cette course Hamilton à ce moment-là de la course. Ça a été un bon week-end pour Max aussi. Je pense qu'il doit être content de la performance générale. Il remporte en premier Grand Prix d'Australie aussi. Ça, il va pouvoir le mettre dans sa poche.
Ouais.
Il n'avait pas fait mieux que troisième depuis le début de sa carrière. Et ça fait très longtemps quand même qu'il est en Formule 1. Donc, il a pu enlever cette pression de gagner, d'avoir un bon résultat en Australie avec une bonne voiture, des points en banque. Sergio Pérez qui termine aussi cinquième, c'est bon pour lui. Il va avoir un petit écart là, au classement qui va sûrement se rétrécir bientôt. Mais règle générale, bon résultat. Il n'a pas trop été challengé, défié. Lorsqu'il a dépassé Hamilton, il a pris rapidement la tête. Donc, non, je pense qu'il doit être satisfait quand même de son résultat.
Ouais, quand même. Et de toute façon, son dépassement sur Hamilton pour reprendre les commandes à l'extérieur avant le virage 9, c'était de toute beauté.
Mm-hmm, oui.
Mais celui qui a maîtrisé l'art des dépassements dans ce virage, c'est son coéquipier Sergio Pérez qui partait de la ligne des puits après des changements de pièces sous le règlement, les règles du parc fermé. D'être sorti de piste lors de la Q1, faisant en sorte qu'il s'est qualifié dernier, Pérez a connu une bonne course, fini cinquième. Et si ce n'était pas de la deuxième relance, il aurait pu finir loin derrière parce qu'il s'est retrouvé dans le sable à nouveau lors du premier virage. Mais néanmoins, c'était une bonne course de la part de l'Espagnol, du Mexicain, je veux dire.
Oui, vraiment. L'an départ, on dirait qu'il y a eu de la misère à prendre son rythme puis à commencer à dépasser des pilotes. La première victime a été évidemment Logan Sargeant, mais ça a été lent, mais efficace. Il s'est pas précipité. Il a bien fait les choses. Il a remonté tranquillement. Bonne décision. Puis, je pense que d'ordre général, il y a eu une très bonne performance. Il a été chanceux que la relance se fasse dans un sens parce que lui, il a repris sa position initiale qui était cinquième au moment des incidents. Il a pu terminer. Même là, Carlos Sainz rejeté vers la fin. Donc, autre position pour lui. La fin de semaine a été négative, mais c'est bien terminé. Puis, on dit toujours que la course, c'est le moment le plus important d'un week-end de Formule 1, puis ça reste le cas. Si tu fais des points, tu oublies un peu ce qui s'est passé avant, même si ça a été un week-end complètement absurde pour Pérez. Très difficile. Je pense qu'il va prendre le mois de congé. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fin de semaine, mais ça n'allait pas du tout. Donc,
ouais.
Écoute, de faire des points comme ça, sans dire que c'est miraculeux parce qu'il est dans une Red Bull, mais c'était super important, je pense. Puis, écoute, il l'a fait sans incident, sauf la petite sortie lorsque le chaos est arrivé. Mais, écoute, d'ordre général, j'ai adoré sa course. Il a bien fait. Il était tranquille, posé, puis ça a donné le résultat que ça a donné.
Exact. Donc, au moins, ça rapporte des points à Red Bull. Même si maintenant, il est un peu loin, il est à quoi? 15 points de Max Verstappen?
Ouais, à peu près, ouais.
Donc, c'est pas si pire pour ça. Donc, c'est pour si jamais il veut challenger Verstappen pour le titre, ben, un abandon de Verstappen. Puis,
et c'est dans la poche.
C'est dans la poche. S'il finit sur le podium, minimum, il faut qu'il finisse minimum troisième. Mais du côté de Mercedes, surtout pour Lewis Hamilton, premier podium, ben, là, c'est officiellement le premier podium de Mercedes de la saison. Après tout le branle-bas, le combat post-Jeddah. C'est grâce à la deuxième place de Lewis Hamilton, c'est le premier podium de Mercedes cette saison. Mais on les a vus quand même. C'est un meilleur week-end pour l'écurie allemande, malgré l'abandon de George Russell.
Vraiment, vraiment. Puis ça, c'est très dommage pour l'écurie, cet abandon. Ça a vraiment gâché leur belle fin de semaine qu'ils étaient en train de faire. On dirait que cette voiture était dans une forme sublime en Australie. sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Il y a eu une modification sur l'aileron avant, mais sans plus. T'sais, vraiment, je pense que tout le monde doit être satisfait quand même de cette performance, malgré l'abandon de Russell. La raison est simple. Je pense qu'ils ont découvert que cette voiture avait quand même quelque chose sous le capot. Il y a quand même un travail à faire avec cette voiture. Alonso qui disait que récemment, je trouvais que Mercedes négligeait ses performances. Ben là, on a peut-être compris pourquoi. Tout se dessine à Bakou, mais j'ai hâte de voir justement cette voiture à Bakou, comment elle va pouvoir performer. Mais en Australie, je pense que tout le monde doit être satisfait malgré l'abandon de Russell. Hamilton qui obtient le premier podium de la saison, une bonne course pour lui aussi. Je pense qu'il doit terminer, il doit repartir de l'Australie content de sa performance et content collectivement également.
Ouais. Et c'est malchance pour Russell, pardon, qui s'est arrêté lors de la voiture de sécurité, avant que le drapeau rouge soit brandi, ce qui voulait dire que tous ceux qui ne s'étaient pas arrêtés pouvaient changer de pneu lors du drapeau rouge. Donc, ce qui n'a pas joué en faveur de Russell. Et je crois qu'avoir les deux Mercedes devant, ben Russell devant aurait certainement aidé Hamilton à se défendre face à Verstappen pour avoir un peu de DRS, parce que honnêtement, Hamilton a été complètement bouffé par Verstappen dès que la première occasion se présentait. Donc, c'est pas de bol pour Russell quand même. Chez Aston Martin aussi, on a évité le pire avec la mascarade du dernier tour, parce qu'évidemment, Alonso a été accroché par Sainz. Stroll s'est retrouvé dans le gravier. Donc, je me disais, oh, il est quatrième. Mais au final, il a fini quatrième. Mais en fait, c'est un troisième podium consécutif pour Alonso et une quatrième place pour Stroll quand même. Donc, et d'ailleurs, ils ont, en trois courses, ils ont surpassé leur nombre de points récoltés en 2022, donc 65 contre 55, si je me trompe pas. Donc, quand même, Alonso a connu une bonne course, qui restait quand même proche d'Hamilton, et Stroll, qui a fait une course correcte malgré une première relance lente.
Ouais, vraiment. Cette voiture est magnifique. C'est vraiment une belle voiture sous tous les plans, autant sur la beauté extérieure, puis il y a aussi quelque chose de très fort à l'intérieur, sous le capot. Alonso termine encore sur le podium. Lance Stroll qui termine quatrième. Très bon résultat collectif en Australie. Tu peux vraiment partir sur de bonnes bases cette saison chez la Aston Martin. Tu l'as dit, ils ont dépassé leur nombre de points de la saison dernière. C'est pas rien quand tu y penses. Tout le chemin qui a été fait cette année, puis c'est loin d'être terminé. Je pense vraiment que les victoires sont possibles cette année, même si la Red Bull est super puissante. T'sais, s'il y a une équipe qui peut ressortir avec une ou deux victoires cette année, c'est probablement Aston Martin. Puis le travail va se faire ainsi avec les améliorations. Owen Stroll disait qu'il y avait beaucoup de choses à venir durant la saison. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec cette voiture. Mais en fin de semaine, elle était en forme. Elle voulait donner de bons points. Puis finalement, ben, c'est ça qui est arrivé. Puis ça va vraiment, ça donne un bon coup de main là, pour le reste de la saison. Bonne course de Lance Stroll, même comme tu l'as dit que la deuxième relance a été un petit peu plus dure. Il s'est fait dépasser. Mais tu vois le résultat, c'est qu'il obtient la quatrième place. Puis il prouve qu'avec une bonne voiture, il est capable de faire un bon travail.
En espérant que ça puisse continuer pour lui. Oui. Sinon, dans les circonstances, il y a une voiture qui se retrouve dans les points pour la première fois de la saison. Et c'est Nico Hülkenberg qui, d'ailleurs, petite aparté pour parler de Haas, qui a lancé un protêt pour la relance. Et parce que Nico Hülkenberg était quatrième au moment où le troisième et dernier drapeau rouge s'est présenté. Et Hülkenberg s'était retrouvé quatrième derrière Carlos Sainz. Donc, dans un monde absolu, ça aurait été Nico Hülkenberg sur le podium, derrière Verstappen et Hamilton, mais comme le drapeau rouge a été lancé, brandi avant la première ligne de chronométrage, ben ça veut dire que on a dû reprendre l'ordre que c'était avant la relance, évidemment moins les voitures qui ont abandonné. Alors, ça a été, mais quand même, Nico Hülkenberg a connu une bonne course et il a fait exactement ce pourquoi Haas est allé le chercher au détriment de Mick Schumacher. Une course propre, correcte, quand même, chapeau à Hülkenberg.
Vraiment. Il prouve qu'il avait encore sa place en Formule 1 en ce moment.
Ouais.
Tu sais, il a fait une belle course sans erreur. Il a fait le travail. Il a été malchanceux quand même dans les circonstances, mais en même temps, la FIA a respecté le règlement qui est, quand tu dépasses pas un secteur, ben, la course reprend là où elle était avant le départ, après un drapeau rouge. Je comprends l'acharnement de Haas pour le protège, tout ça. Ça aurait pu, mais écoute, la bonne décision a été prise. Malheureux quand même pour Hülkenberg, hein, ça aurait été son premier podium.
Finalement!
Finalement, il va devoir attendre encore. Mais écoute, je pense qu'il doit être très content aussi, lui, de son côté. Je pense que, comme tu dis, course propre, pas grand-chose à dire de son côté. A fait le travail, plus que Magnussen. Donc, je pense qu'il peut vraiment ressortir satisfait de sa performance.
Ah oui, vraiment, là, ça a été une course vraiment propre de la part de Hülkenberg. Mais il y a une équipe qui va ressortir vraiment contente de ce Grand Prix avec des points finalement, et c'est McLaren. Avec Lando Norris et Oscar Piastri dans les points, Norris sixième, Piastri, huitième à la maison quand même. Certes, c'est peut-être pas un moment où il va se retrouver sur le podium après la course comme Mark Webber l'avait fait en 2002. D'ailleurs, son manager, en passant. Mais pour McLaren, au moins, ce qui se retrouvait quand même dans la lutte pour les points, au moins, ça va être une... Ça va être une joie pour l'écurie britannique.
Exact. Puis je pense que tous les points qu'ils vont pouvoir prendre cette année, ils vont être extrêmement contents parce que c'est une saison vraiment difficile. Puis quand McLaren va faire des points, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer devant. C'est quand même malheureux quand on pense à ça, alors qu'ils étaient quatrième l'an dernier. Et qui se battait pour la meilleure place. Donc, quand tu observes le tout, tu te dis, waouh, ça, ils ont évité tout ce qu'ils pouvaient éviter. C'est aussi ça, la course automobile, hein, c'est d'éviter la malchance. Des fois, c'est de la chance parce que tu les justesses, puis ça fait en sorte que toi, t'es sauf, puis que tu vas aller chercher des points. Donc, quand c'est propre, moi, je m'attends à avoir un bon, une bonne course. Puis c'est exactement ce qu'ils ont eu. Donc, ils ramassent de bons points. Après ça, là, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la voiture également.
Ouais. Et évidemment, il va y avoir des modifications, des mises à jour, du développement qui va être fait au cours de la saison. Donc, au moins, si ça te permet de revenir avec si avoir une course comme ça te permet de vraiment faire d'avoir des points au moins, ça c'est quand même une bonne chose dans les circonstances. Et en plus, tu devines quoi? Ils sont cinquième devant Alpine. qui aurait pu aller chercher de gros points, très honnêtement. Aussi, félicitations à Zhou Guanyu qui termine 9e, donc marque ses premiers points de la saison, et à Yuki Tsunoda qui termine 10e et qui aurait pu, si Carlos Sainz n'avait pas été pénalisé, Tsunoda aurait eu le triste record du pilote à avoir terminé 3 fois de suite 11e. Donc, il s'en est sauvé de peu, Tsunoda, mais le pilote japonais a eu des problèmes avec sa voiture. Il était un peu un sitting duck au cours de la course, mais il s'est bien battu quand même. Zhou Guanyu qui a eu le dessus sur l'Australien d'adoption, Valtteri Bottas, qui finit 11e. Bottas qui s'est qualifié avant-dernier, parti de la ligne des puits. Ça a été plutôt difficile pour Bottas à sa deuxième course à domicile. Je crois qu'il avait hâte d'oublier ce Grand Prix. Mais il a eu une bonne vue de toute la mascarade de la deuxième relance. Et finalement, c'est dommage, mais peut-être que Alex Albon aurait pu marquer des points dans ce Grand Prix, mais accident au sixième tour, alors qu'il était sixième, c'est dommage.
Tellement dommage.
Mais ça, c'était de sa faute. Et tu sais, j'ai appris ça aussi, Williams a priorisé, tu vois le virage où il est sorti? C'était le virage où qu'ils ont priorisé le plus, parce qu'évidemment, avec la modification du circuit qui a été faite l'année dernière, là, c'est à pleine vitesse jusqu'au nouveau virage 9. Donc, l'endroit où Albon est sorti, tu sais, le virage est entamé à vitesse moyenne. Donc, avec la Williams qui a une vitesse de pointe hallucinante, c'était là où il pouvait y aller. Et malheureusement, il s'est sorti là où il était le plus fort parmi le reste du plateau. Donc, c'est dommage pour Albon, parce que ça aurait été de gros points pour Williams. Et là, ils sont encore derniers à égalité avec AlphaTauri. AlphaTauri est passé devant Williams théoriquement, donc Williams est maintenant bon dernier, donc c'est dommage pour Alex Albon, mais c'était de sa faute. Donc c'est ce qui a fait le tour de ce Grand Prix d'Australie, en fait. Donc, au classement des pilotes, Max Verstappen est premier avec 69 points. Nice. Sergio Perez, deuxième avec 54 points. Fernando Alonso, troisième avec 45 points. Lewis Hamilton, quatrième avec 38 points. Carlos Sainz et Lance Stroll, respectivement, 5e et 6e avec 20 points chacun. George Russell, 7e avec 18 points. Lando Norris, 8e avec 8 points. Nico Hülkenberg, 9e avec à égalité avec Charles Leclerc avec 6 points au 9e et 10e rang. Charles Leclerc, comme tu l'as dit un peu en début, je sais que tu en as parlé un peu, Marc-André, il s'est sorti lui-même.
Vraiment, tu sais, le seul responsable, c'est lui. Puis, on dirait que depuis 2 ans, on le redit, la malchance, ça bat sur lui. C'est vraiment là, impressionnant comment il est malchanceux. Mais oui, s'est sorti lui-même en fin de semaine. Puis ça aurait pu donner un bon résultat pour Ferrari. On dit toujours ça, on dirait. Donc, je sais pas ça va être quoi la solution. Il est encore jeune, hein? Il faut pas l'oublier quand même. Là. Mais les erreurs commencent à être nombreuses chez Leclerc. Des fois, c'est pas de sa faute, des fois, c'est de sa faute. Mais il va falloir trouver un moyen. Un peu comme lorsque Verstappen a eu un retour de conscience à Monaco 2018. Il va falloir un événement qui réveille Leclerc et Ferrari pour qu'ils reprennent un peu confiance, qu'ils reprennent un peu conscience de ses actes, puis que enfin il y a des bons résultats.
Oui. Parce que, écoute, c'est son pire début de saison depuis qu'il est avec Ferrari. Alors,
6 points.
6 points. Bon, le premier, c'était un problème, c'était un abandon mécanique. Mais quand même.
La marge va être haute, ça c'est sûr.
Oui.
Puis surtout que j'imagine que la confiance est un peu affectée aussi. Donc, ça aussi, ça peut jouer dans les prochaines semaines. Heureusement, ça arrive jamais. Mais là, toutes les écuries ont un mois de congé. Je pense que ça arrive tôt dans la saison, mais quand même, je pense que ça va faire du bien à pas mal tout le monde. Ils vont pouvoir regarder un peu le début de saison puis faire une rétrospective. Puis Ferrari doit en faire une, sans aucun doute. Là.
Ouais. Alors, ça va être... Oh mon Dieu, quelque chose à voir. Sinon, on va passer à la Formule 2 et la Formule 3 qui, pour la première fois, se retrouvaient à Melbourne, donc Down Under. Et le spectacle n'a certainement pas déçu. Quelle course au pluriel, et je dis au pluriel, il y a eu de l'action bord en bord, qualifications qui se sont disputées sous la pluie, il y a eu des incidents qui étaient douteux, mais au final, on va commencer par la Formule 2 dans la course principale. Je suis super content après une fin de semaine sportive assez difficile. Mais Ayumu Iwasa a remporté la course principale à Melbourne devant Théo Pourchaire et Arthur Leclerc qui obtient son premier podium en Formule 2. Frédéric Vesti termine 4e, Zayn Maloney 5e, Yarun Daruvala 6e, Richard Virchow 7e, Jack Doohan 8e, Kush Maini 9e et Juan Manuel Correa termine 10e. Dans une course qui a été marquée par des incidents, voiture de sécurité, j'en parlais un peu plus tôt, Enzo Fittipaldi qui est passé proche de taper la voiture immobilisée de Roy Nissany entre les virages 2 et 3. On a eu plus de peur que de mal après que ce dernier soit sorti. D'abord, Nissany soit sorti de piste et que Fittipaldi fit de même lors de la voiture de sécurité en sortant des puits. Sinon, dans la course sprint, on a eu Dennis Hauger qui a gagné l'épreuve devant Jack Crawford et Kush Maini. Arthur Leclerc, 4e, Zayn Maloney, 5e, Isaac Hadjar, 6e, Olive Berman, 7e, Frédéric Vesti, 8e, Roy Nissany, 9e et Richard Virchow, 10e. Et il y a eu une pluie de pénalités. Et si ça a été occupé pour toute l'histoire de la relance en Formule 1, il y a eu plein de pénalités en Formule 2 et en Formule 3, d'ailleurs, l'autre sujet dans la course principale. Gabriele Bortoleto a gagné la course sur Trident devant Grégoire Ceci et Gabriele Mini. Donc, ça, c'est le top 3 de cette épreuve. Et dans le sprint, Zach O'Sullivan a gagné devant Sébastien Montoya et Paul Aaron. Donc, ça, c'était le podium en Formule 3 au classement des pilotes. Iwasa, en Formule 2, Iwasa mène avec 58 points devant Théo Pourchaire avec 50 et Frédéric Vesti à 42. Ralph Bochon, qui était le meneur avant l'épreuve, n'a marqué aucun point. D'ailleurs, il n'a même pas participé au sprint parce qu'il est sorti de piste lors du tour de reconnaissance. un petit bra moment de la part de Bochong. Donc, il reste à 33. Et en Formule 3, donc je vous donne le classement à l'instant, Gabriele Bortoleto consolide son avance avec 58 points, soit 20 points de plus que Grégoire Sossi. Et Dino Beganovic, qui n'a pas marqué de points lors de la course principale, est troisième à égalité avec Gabriele Mini, qui est quatrième, avec 28 points. Donc, la prochaine épreuve de Formule 2, ce sera dans un mois avec la Formule 1 à Bakou. Et la Formule 3, elle, va être de retour seulement à Imola dans un mois. À Imola du 18 au 20 mai. Donc, c'est ce qui fait le tour de ce week-end en Australie qui était fou. Et ça, et on n'en a pas parlé, Marc-André, mais tout ça, c'était sous le regard attentif de Michael Massey, qui était présent à Melbourne, puisqu'il travaille pour le Supercars. En Australie, et la Supercars était présent à Melbourne, évidemment, ça fait partie du championnat. Alors, on parlait de chaos. un des hommes qui a créé le chaos dans les dernières années était présent aussi. Donc,
est-ce que tu penses qu'il s'est frotté les mains parce que c'est pas lui qui s'occupait de tout ça?
Fort probablement. Non, je pense qu'il peut se dire au moins. Au moins, Nils Vitich est moins connu que lui. Donc, au moins, ça va lui faire du bien. Et je pense que ça va nous faire du bien à nous aussi, parce que c'est ce qui complète cet épisode d'après-course du bulletin GP. Et mon Dieu, que ça a été assez difficile. Le réveil a été un peu compliqué, mais on sera content d'avoir au moins un mois sans Grand Prix. Ça va être long, mais ça va être nécessaire au moins pour pouvoir faire nos activités. Évidemment, on aura nos épisodes hebdomadaires le jeudi. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres. Évidemment, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, @lebulletingp. Et évidemment, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook La Monoplace. Pour parler de Formule 1 entre-temps. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là.
Mais merci à toi, c'est toujours un plaisir, même si le réveil a été très court.
Ouais. Tu t'es couché à quelle heure?
Je me suis couché vers 5 heures. Je me suis levé à 8 heures pour lire un peu sur ce qui s'est passé. Je me suis recouché. Puis là, on a commencé l'enregistrement à 10 heures.
Ouais. Donc, va te coucher, Marc-André.
Je vais aller faire ça. Une petite sieste, ça va me faire du bien, je pense.
Ouais, une bonne sieste, ça va te faire du bien. Et j'espère que vous allez profiter de votre du mois sans F1 pour faire autre chose. Entre-temps, mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Et on se retrouve une prochaine fois pour l'épisode hebdomadaire et dans un mois pour la précourse du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Salut tout le monde!
Salut à tous!